Alors nous poursuivons notre étude de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 4, qui traitait donc, qui terminait la partie où Paul traitait du problème des divisions et des causes des divisions et les conséquences des divisions dans l'Église. Et nous poursuivons donc avec le chapitre 5 ce soir, qui nous parle d'un autre type de problème qu'il y avait dans l'église de Corinthe à ce moment-là. C'était le problème de l'immoralité, le problème d'un manque de discipline qu'il y avait dans l'église à ce moment-là. Parce que les Corinthiens, donc, donnaient libre cours, laissaient faire tout ce qui était immoral dans l'église, s'imaginant peut-être que la nouvelle liberté qu'ils avaient en Jésus-Christ leur permettait de tout faire. Et il y a des gens comme ça, nous sommes libres, on croit que tout est permis. Tout n'est pas permis, hein? Tout n'est pas permis. Il y a des choses que le Seigneur nous interdit. Amen. Donc, ils s'imaginaient qu'ils pouvaient faire tout ce qui leur plaisait. Et Paul se retrouve donc face à ce scandale, des scandales qui étaient actuels, qui étaient présents dans l'église de Corinthe et qui affectaient, qui commençaient et qui affectaient lourdement le témoignage de l'église de Corinthe. Et en tant qu'apôtre, en tant que celui qui avait une autorité sur cette église, Corinthe, il ne pouvait pas se taire. Même s'il n'était pas présent, même s'il était absent, il s'est senti forcé d'agir, de réagir même, et de parler à cette église, et aux responsables de cette église. Alors, je vais lire tout le chapitre, si vous voulez, et puis ensuite on va y revenir, peut-être verset par verset. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps certes, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous, et mon esprit étant assemblé avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché ou cupide, ou idolâtre ou outrageux, ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez donc le méchant du milieu de vous. Un chapitre court, mais condensé, il y a des choses importantes qu'il signale là-dedans. Il commence par dire, on entend dire. D'abord, ce que je vais dire au début, c'est que vous vous rendez compte que tout de suite, on a l'impression que Paul cible le péché de cet homme qui avait pris la femme de son père. Oui. Mais ce n'est pas la seule chose que Paul cible ici. Il cible un autre péché. Et c'était réellement un péché parce que c'est la faute de l'Assemblée qui a laissé faire, qui n'a pas agi, qui n'a pas réagi, qui n'a pas sanctionné et qui n'a pas montré que c'était mauvais ce que cet homme a fait. Donc il y a deux péchés que Paul cible là-dedans. Il dit, on entend dire généralement, pour dire que ce n'est pas quelque chose qui n'est pas connu. C'est même connu et malheureusement, c'est connu. Si on entend dire, on entend à l'intérieur, mais on entend aussi à l'extérieur. Ça veut dire que même le monde, les gens du monde entendent ce qui se passe dans l'église. C'est vraiment pas un bon témoignage. C'est vraiment pas un bon témoignage. D'où la colère de Paul, évidemment. Il dit, mais c'est pas possible. Des choses peuvent se passer à l'interne, peut-être se régler et ça s'arrête là. Mais on l'entend dire généralement. Ça veut dire, pas une fois, pas deux fois, mais c'est courant qu'on entende parler de ces choses qui se passent au sein de l'Église. D'où la colère de Paul. Il dit, on entend dire ce qu'il y a parmi vous, qu'il y a parmi vous de la débauche. La débauche, c'est un mot général qui regroupe toutes sortes de péchés de caractère sexuel. Allez-y, ça part de l'adultère, ça part de la fornication, ça part de l'homosexualité, j'en parlais tout à l'heure. Ça peut toucher même la bestialité, des gens qui s'acoquinent avec des animaux, des bêtes. Écoutez, il y a toutes ces choses, ça regroupe tout ça. Et c'est des choses qui se font, qui se sont faites en tout cas à cette époque et qui se font encore aujourd'hui, peut-être en dehors de l'Église, mais qui se font encore aujourd'hui. Nous espérons que ça se fait en dehors de l'Église, nous espérons, mais nous ne sommes pas certains. Parce que, comme je dis toujours, l'Église, par moments, c'est rassemble toutes sortes de gens, on ne connaît pas, mais un jour, Dieu finit par révéler ce qu'il y a, la vraie face des gens. Donc, c'est toutes sortes de péchés, dont celui-ci, l'inceste. Un péché grave. Il a pris la femme de son père. Il ne précise pas ici que c'est sa mère. Il ne précise pas. Je ne croirais pas, en tout cas, on ne sait pas. Mais ça pourrait être une deuxième femme de son père, ou que sa femme avait, son père avait plusieurs femmes. C'est une des femmes qui ne vit plus avec son père. Ou son père était divorcé. Mais peu importe, c'est quelque chose qui était interdit par la loi. On peut lire Lévitique 18, verset 8. Et il le savait, Lévitique 18, verset 8. 8 dit ceci, « Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. » C'est clair qu'il le savait. Il semble même que dans les coutumes, dans les pratiques des Romains à l'époque, c'est quelque chose qui était banni aussi dans la société. Donc ça concernait même les païens. Ce n'est pas seulement pour des gens qui connaissent le Seigneur. Même chez les païens, c'est une honte. C'est une honte de commettre l'inceste. Donc même dans c'était régi par les lois ou les règlements de la communauté romaine de l'époque. Donc, les gens le savaient, mais ils l'ont fait quand même, et dans l'Église, et c'est quand même pas du tout acceptable. Ce qu'il dit donc, ça se passe dans l'Église, au point même que l'un de vous, c'est tellement grave ce qu'il fait, que l'un de vous a la femme de son père. Au verset 2, il dit, « Et vous êtes enflé d'orgueil. Malgré toutes ces insanités, même toutes ces saletés qui se passent au milieu de vous, vous continuez à être enflé d'orgueil. Vous continuez à vous vanter au lieu... Vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. C'est quelque chose qui devrait vous mettre dans le deuil. Vous devriez porter deuil. Vous devriez vous mettre à genoux, crier au Seigneur pour que ce mal arrête. D'abord et avant tout. Donc, vous vous êtes enflé d'orgueil. Vous vantez, vous dites peut-être oui. C'est notre nouveau mode de vie. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui, même chez les chrétiens. Il y a beaucoup de choses qu'on veut faire aujourd'hui qu'on ne devait pas faire. On dit c'est le moderne, c'est la situation actuelle, c'est la civilisation qui nous permet de faire des choses comme ça. On s'enfle d'orgueil pour des choses qu'on sait qu'elles sont mauvaises. C'est terrible. Et vous vous enflez d'orgueil plutôt que d'être dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Vous ne pouvez pas continuer à garder une telle personne au milieu de vous. Vous ne pouvez pas. Nous allons voir plus loin parce que le but ici, je vais y revenir plus tard parce qu'il étale ça. Le but ici n'est pas de dire quelqu'un a commis un péché grave, quel qu'il soit, immédiatement il faut le mettre dehors. C'est pas ça. Il y a une démarche à suivre. Mais vous l'avez gardé, vous cautionnez le mal qu'il a fait, vous le protégez dans quelque sorte. Donc il dit, vous devriez être plutôt dans l'affliction, verset 2. Il dit, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Vous, vous êtes indifférent à cause de votre orgueil. Vous manifestez de l'arrogance. Vous trouvez sans doute des excuses à tout ça. Oh, vous savez quoi, c'est une femme que son père a laissée depuis longtemps, peut-être, ou je ne sais pas quoi. Mais ça reste la femme de ton père. C'est la nudité de ton père, le texte vient de nous le dire, si vous découvrez. Donc, la bonne attitude aurait été d'exclure cette personne de l'assemblée tant et aussi longtemps que cette personne ne veut pas s'amender, ne veut pas abandonner le mal dans lequel il est. L'exclure de l'assemblée, l'ôter du milieu de vous, c'est le considérer tout simplement comme un païen, un comportement païen qui n'a pas de place au milieu des enfants de Dieu. Amen. Et ici, évidemment, il faut tenir compte d'une démarche. J'ai dit qu'il y a une démarche. Il y a une démarche pour éviter des abus dans l'Église du Seigneur. Même aujourd'hui, il y a une démarche qu'on doit suivre qui sert comme de garde-fou. C'est un texte qu'on dit dans Deutéronome chapitre 19, verset 15, qui a été cité par Jésus, où un péché, quel qu'il soit, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou trois témoins. Il y a déjà ça. Pas juste sur la parole d'une personne, mais quand il y a deux ou trois témoins, vous pouvez à ce moment-là procéder. Mais mieux que ça, si nous allons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 18 aussi, le verset 15, « Si ton frère a péché, comme dans ce cas ici de ce monsieur, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. » Commence par l'aborder. « Frère, tu as péché. Tu es conscient que ce que tu fais n'est pas bon. Entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. » Verset 17. « S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. » L'assemblée est en droit de savoir ce qui se passe avec un des leurs. « Dis-le à l'église. » Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen, un publicain. Et je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre, en tout cas, sera lié dans le ciel. Donc, c'est Jésus qui montre aussi la démarche à suivre. La démarche à suivre. Va voir le frère, toi seul à seul, ne pas l'humilier, etc. Exhorte-le. Si tu y réussis, tu viens de sauver une âme. Mais s'il refuse, prends quelqu'un d'autre pour t'accompagner. S'il refuse, vous l'amenez devant l'Église, etc. Et s'il refuse l'Église, ben, c'est tout simplement un païen. Il faut l'ôter du milieu de nous. Amen. Et donc, Paul, on vient de lire au verset 3 du chapitre 5, qu'il prend position. Il n'entend pas parler juste de ce qui s'est passé. Il prend position, même si physiquement, dit-il, il est absent. Il n'était pas là, mais on a vu au début qu'il y a des gens qui lui ramenaient de temps en temps des nouvelles. Il y a même des lettres qui lui ont été envoyées, qui lui donnaient des nouvelles de ce qui se passait dans l'église de Corinthe. Alors, il use de son autorité apostolique et communique donc sa décision. Lui dit, « J'ai déjà jugé. » Ma position est claire, contrairement à l'Assemblée. L'Assemblée a vu venir ces choses, l'Assemblée a vu grandir la chose, l'Assemblée a vu que la chose était entretenue, l'Assemblée n'a rien fait, mais moi j'ai déjà jugé. J'ai déjà jugé et il s'attend automatiquement, en le disant ainsi, que l'Église aussi puisse prendre position. Pour moi, absent de corps, je suis absent, mais ce n'est pas parce que je suis absent de corps que je ne suis pas présent d'esprit. Je m'intéresse à ce qui se passe dans l'Église. Même si je ne suis pas là, je m'y intéresse. Et je me sens triste à votre place d'avoir supporté une telle chose. Il dit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Alors il suggère donc, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés, nous sommes d'accord au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est le maître de l'Église, au nom du maître de l'Église, et avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan. Donc, il faut l'exclure. Il soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Exclure quelqu'un de l'Assemblée, ça veut dire ne plus le considérer comme membre jusqu'au moment où il se repent. Il peut revenir et regagner sa famille. L'exclure, c'est cela. Père, nous t'avons exhorté, tu n'as pas voulu, tu ne fais plus partie de l'Assemblée, tu n'as plus de place, tu ne peux plus t'assembler, te réunir avec nous. Tu es une tache noire ici au milieu de l'Église, il faut que tu partes jusqu'au moment où tu te sentiras prêt, jusqu'à la repentance. Il dit qu'il faut le livrer à Satan, il faut le livrer au monde, qui est le domaine de Satan. Le livrer à Satan, tu le livres au monde, va dans le monde, tu es païen comme les autres, va dans le monde, etc. Donc tu es exclu de la présence de Dieu au milieu de son Assemblée. Livré à Satan. Donc parfois, Satan, je pensais à ça, parfois Satan sert Dieu. Vous savez, quand quelqu'un se trouve dans des situations difficiles, il sert toujours Dieu, c'est un serviteur. C'est un serviteur. Il n'a pas obéi, mais il continue à servir. Donc, quand quelqu'un est dans des difficultés terribles dans la vie, quand quelqu'un passe par une épreuve, des choses qu'il a recherchées, quand quelqu'un se sent humilié, comme cet homme qu'on va exclure de l'Assemblée, il se sent humilié, là, peut-être, il va réfléchir. Quand l'ennemi, il est livré à Satan, il est livré au monde, et l'ennemi se charge de lui, dit « Oh, bienvenue, bienvenue !» Il va se charger de lui. Quand il aura mal, quand il va réaliser que c'est dur ce que je suis en train de vivre, là, ça peut le réveiller et dire « Oh, il faut que je revienne à mon Père. » Ça peut amener à la repentance. Donc, ce que l'ennemi fait parfois dans la vie des gens, réveille des gens pour revenir à Dieu. Ça réveille les gens. Il y a des gens qui sont torturés par l'ennemi. Ils se disent, mais j'étais bien où j'étais dans la maison de mon père. Qu'est-ce qui m'a fait sortir? Ça devient une raison pour venir à Dieu. À ce titre, Satan sert le Seigneur. Il sert le Seigneur. Donc, il dit, c'est le livret dans le monde qui est le domaine de Satan. Ça ne veut pas dire qu'on se débarrasse. Ouf, est parti. On se débarrasse de la personne. On ne le livre pas non plus à la mort. Le livrer à Satan, ce n'est pas le livrer à la mort. Seul Dieu peut livrer une personne à la mort. Comme dans l'histoire d'Ananias dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5. Seul Dieu. Nous, nous disons, tu te comportes comme les gens du monde. Tu ne veux pas suivre les voies du Seigneur. Va dans le monde, et bien Satan va s'occuper de toi. Dans le fond, c'est ce que tu cherches. Donc, ce n'est pas qu'on se débarrasse d'une personne quand on l'ôte du milieu de l'assemblée, mais on le fait réfléchir. C'est une occasion qu'on lui dit, mais va dehors, peut-être que tu vas mieux réfléchir et que tu vas revenir. Donc, nous, ici, livrer quelqu'un, ce n'est pas se débarrasser, ce n'est pas le livrer à la mort physique, ce n'est pas de notre pouvoir. Nous ne pouvons même pas livrer quelqu'un à la mort physique. Dieu seul peut décider de mettre fin à la vie d'un homme, comme Ananias et Saphira. C'est pareil. Donc, le but ici, c'est d'isoler cette personne. L'isoler, comme je disais, lui donner le temps de réfléchir. Tant qu'il était dans l'assemblée, tant qu'on l'exhortait, il dit, non, vous exagérez. Jusqu'au moment où il réalise que c'est grave, pour que l'assemblée dise, tu ne fais plus partie des nôtres, tu vas dehors. Là, il se peut peut-être réfléchir à sa condition. Et il va peut-être passer par une épreuve qui va être celle qui va le racheter. Une épreuve qu'on appelle rédemptrice. Passe par une épreuve et c'est cette épreuve qui te ramène sur le droit chemin. Cette épreuve, le but d'isoler la personne, c'est de l'aider pendant ce temps à aller réfléchir à sa condition et à essayer d'abandonner tous ses appétits sexuels et tout ce qui est les œuvres de la chair dans lesquelles il vivait. C'est un temps de réflexion pour se détacher de ça, pour abandonner un mode de vie qui était celui que l'on avait avant de venir au Seigneur. On doit avoir abandonné ces choses. On doit avoir abandonné tout ce qui est lié à notre ancienne nature des fils et des filles d'Adam. Quand on vient à Christ, on doit être une nouvelle créature. Réfléchir à cela. C'est aussi pour aider cette personne, quand elle réfléchit, afin qu'un jour, avant qu'il ne soit trop tard, son esprit soit sauvé, soit libéré de la détresse, du jour du jugement du Seigneur. Donc c'est rédempteur parfois. De prendre une mesure drastique, c'est rédempteur. Et nous allons le voir tout à l'heure quand je vais parler, parce que Paul aborde, en parlant de ça à partir du verset 5 et 6, qu'un homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, des œuvres de la chair, afin que son esprit soit sauvé le jour du Seigneur. Mais il aborde à partir de là, donc, la nécessité de l'importance de la discipline interne dans chaque église. Il doit y avoir une discipline interne. C'est un point important, je voudrais m'attarder là-dessus. Il dit que c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Il l'a dit au début, il dit, mais vous êtes enflé d'orgueil. C'est bien à tort que vous voulez vous élever par ce que vous faites. Disons, notre église est bien. Chez nous, on accepte tout le monde. Vous savez, Dieu est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu de pardon. Dieu s'occupera de lui, il n'a qu'à rester au milieu de nous. Non. Vous vous enflez d'orgueil et vous vous glorifiez à tort. Vous vous vantez de ne pas être dur. Nous, on n'est pas dur. Dans notre église, c'est cool. Les autres sont sans cœur, n'ont pas d'amour. Pas comme ça. On aime les personnes, mais on n'aime pas le péché qu'il y a en eux. Et même, à la limite, la personne, quand elle est désobéissante, que la personne ne veut pas écouter, vous savez, je veux bien l'aimer, ça ne veut pas dire la garder dans cette ignorance ou dans cette position de faiblesse qu'il est. Il faut corriger cette personne. En corrigeant cette personne, vous allez le sortir des mauvaises voies et l'amener vers la voie. La correction a toujours sa place. Il faut savoir qu'il est toujours plus facile, c'est toujours plus facile de ne rien faire devant une situation. Vous dites, Dieu va s'occuper. C'est toujours plus facile que de prendre une mesure difficile. Vous savez que quand vous prenez une mesure difficile, vous allez être critiqué. On va dire toutes sortes de choses. Il n'a pas de cœur. Qu'est-ce qu'il croit? Mais si vous le faites parce que c'est comme ça que le Seigneur veut que les choses soient dans sa famille, dans l'Église. Vous ne devez pas vous occuper des on-dit. Vous ne devez pas vous occuper des qu'en dira-t-on? Amen. Vous ne devez pas vous en occuper. Donc, je vais parler un petit instant sur la discipline de l'Église. Je vous dis que la discipline qui doit régner dans l'Église ne doit jamais être considérée comme une punition. On ne punit pas quelqu'un. On n'est pas hostile. On n'est pas opposé à quelqu'un. On n'est pas en train de punir quelqu'un qui a fait le mal dans l'Église. Parce que vous le savez, vous qui êtes parents, que la punition ne va pas corriger l'enfant. Et je vais vous montrer, il y a des nuances là-dedans. La punition, ça va être quelque chose qui veut juste arrêter l'enfant, mais ça ne corrige pas l'attitude de l'enfant. Même chose pour un chrétien. Que l'on dit, on va le punir, ça ne corrigera pas l'attitude. ça ne l'amènera pas nécessairement à se repentir. C'est comme une fessée. L'enfant, tu lui donnes une fessée, ça fait mal, il pleure, il va faire arrêter ce qu'il faisait. Mais le lendemain, s'il a une occasion, il le refera parce qu'il n'a pas compris que c'était mauvais. On ne l'a pas donné la fessée parce qu'on ne l'aimait pas, on lui a donné la fessée parce que ce qu'il faisait est mauvais. Ce qu'il faut faire dans ces conditions-là, c'est qu'il faut prendre l'enfant, lui donner la fessée, même si on n'aime pas beaucoup ça présentement, lui donner la fessée, mais s'asseoir avec l'enfant et lui expliquer pourquoi. Et nous, comme chrétiens, prier à la fin avec cet enfant. Prier à la fin. Lui montrer vraiment que c'est par amour, c'est pour ton bien, c'est pour redresser les mauvaises voies, c'est pour que tu ne refasses plus, pour que tu comprennes que tu n'as plus besoin de le refaire. Sinon, il le refera. Quand papa, maman ne sera pas là, est sorti, la même chose qu'il a fait, il le refera une autre fois. Parce qu'il a été puni, il dit, mais il croyait que je ne pouvais plus le refaire. Ah, je suis capable. La punition n'aide pas. Ce que la discipline de l'Église ne doit pas être, ça ne doit pas être une punition. Ça ne doit pas être aussi une occasion d'éloigner quelqu'un ou de restreindre l'espace de quelqu'un ou sa capacité d'agir. C'est comme si tu mettais quelqu'un en prison. Il y a beaucoup de gens qui vont en prison, qui en sortent changés, gloire à Dieu. Mais il y a des gens qui sortent de là, qui sortent pire. La prison, ce n'est pas une solution non plus. Donc, ce que doit être la discipline de l'Église, ça ne doit pas non plus être une sorte d'éloignement simplement pour éviter qu'il fasse encore du mal au milieu de nous. La personne ne changera pas. Par contre, le but doit être éducatif. Le but doit être rédempteur, comme je disais tout à l'heure. Le but doit être d'amener la personne à la réflexion et au changement. Et comme je disais, une fessée suivie d'un temps d'exhortation de la personne pour qu'il comprenne pourquoi on a pris cette mesure. Frère, sœur, nous t'aimons bien. Mais ce que tu fais, nous t'avons exhorté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, tu n'as pas compris. Et là, maintenant, Tu vas aller réfléchir, mais nous prions pour toi, pour que pendant ce temps, que le Seigneur t'éclaire. Ce que nous n'avons pas pu faire, nous, que le Seigneur t'éclaire, que le Saint-Esprit te parle, et que tu puisses revenir sur de bons sentiments. Le but, c'est d'éduquer les gens, c'est de les ramener dans le droit chemin. C'est un but qui ne vise pas seulement la personne. La discipline à l'Église vise aussi à purifier l'Église. Bien-aimé, parce que nous ne devons pas être tolérants dans l'Église pour tout le mal qui s'y fait. Être passif, on dit, bah, on va prier, on va continuer à prier. On va continuer à un moment donné, il faut agir. Donc, le but de la discipline est aussi de purifier l'Église du Seigneur. Parce que l'Église a une réputation à sauvegarder. Beaucoup de gens nous observent. J'étais tout à l'heure chez M. Saint-Cyr, j'ai parlé avec lui. S'il avait entendu parler des choses de cette Église ou du pasteur de l'Église en disant, il dit, c'est toi le pasteur de cette Église. Il dit, mais jamais je ne te prendrai ici. Nous avons un témoignage à sauvegarder. Nous avons une réputation. Et n'est même pas la nôtre, c'est celle de notre Seigneur. Nous sommes ses témoins. Qu'est-ce que nous affichons? Qu'est-ce que les gens de l'extérieur apprennent de nous? Le but de la discipline dans l'Église, c'est de sauvegarder cette réputation que l'Église doit avoir. Nous sommes entourés de beaucoup de gens qui nous observent. J'arrive là, je vois son épouse, sa conjointe, qui me voit, il dit, je me présente, je dis, je suis Jean, je n'ai pas dit à votre mari qui j'étais, je suis Jean, je suis de l'église. Ah oui, je connais l'église sur la rue Notre-Dame. J'ai dit, ah oui, vous connaissez l'église? Il dit, oui, je connais l'église. Je lui ai dit en parenthèse, pourquoi vous ne nous avez pas visité depuis lors? Là, c'est autre chose. Donc, le but est de sauvegarder la réputation de l'Assemblée. Mais le but est aussi de dissuader les autres. C'est comme dans une famille, vous ne punissez pas un enfant quand il fait le mal. Les autres vont dire, écoute, ça a l'air que c'est permis ici. Ils vont faire la même chose. C'est dissuader les autres à ne pas imiter les gestes de ce frère ou de cette sœur, à ne pas prendre le péché à la légère. Ça, c'est vraiment une éducation importante qu'on doit amener pour encourager la sanctification dans l'Église. C'est vrai, bien-aimé, que l'exclusion d'une Église, une mesure disciplinaire comme celle que Paul prône ici, elle est sévère, mais elle est utile. C'est vrai qu'elle humilie les personnes. C'est vrai qu'elle affecte l'ego des personnes. C'est vrai qu'elle affecte la réputation même d'une personne. Tout le monde va en parler. Il dit, ah, c'est lui, il l'a exclu de cette église. Tu sais, tu sais pas ce qu'il a fait. Tout le monde, ça affecte la réputation de la personne, mais ça va empêcher le mal de se répandre dans l'église. Voici le but de cela. Maintenant, est-ce que toute faute doit amener à l'exclusion? Moi, je dirais pas. Je dis, ça dépend de la nature de la faute. Et ça dépend aussi de l'attitude, surtout de la personne. Si on sent que la personne fait des efforts, elle lutte, nous sommes là pour l'accompagner dans la prière, etc., et au moyen de la parole, l'aider à s'en sortir. Donc, ça dépend. Mais ce qu'on peut faire, par exemple, il existe, et ça, ça se fait aussi dans les églises, de ce qu'on peut appeler des exclusions partielles. Vous étiez, à l'accueil, vous étiez à la louange, vous étiez à la cabine de son, vous étiez responsable d'un ministère, mais vous tombez dans un péché du genre. On vous dit, écoutez, pendant X temps, le temps que vous vous amendiez, etc., vous quittez votre ministère, vous ne faites plus le travail que vous faisiez. Ça se fait dans les églises. C'est une leçon qu'on veut donner à la personne. Ça aide la personne à comprendre. Comme, et ça devrait être le cas, quand on exclut une personne, quand on l'empêche, c'est de dire, on t'exclut de la communion, de la table du Seigneur. Quand il y a une exclusion totale, ça c'est clair. À l'Église catholique, on appelait ça l'excommunication. Donc, tu étais complètement exclu. Mais nous aussi, on devrait arriver à un temps où on dit, à un moment donné, devant telle faute, etc., la personne ne veut pas s'amender. Mais bien aimé, tu ne prends pas part à la table du Seigneur. On ne peut pas prendre part à la table du Seigneur n'importe comment. Donc, voilà ce que un petit mot que je voulais ajouter sur... Mais on va aller au verset 7. Il dit, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » Paul illustre son propos. Il illustre son propos en faisant donc allusion au levain, le levain. Les gens connaissaient le levain, ils savaient, c'est un pays méditerranéen, là, ils savaient ce que c'était le levain, ils savent c'est quoi l'impact du levain. Il y a un impact qui peut être bon, comme il peut ne pas être bon. Quand tu fais le pain, si tu mets le levain, ça va te permettre d'avoir du pain qui a grossi, qui a pris forme. Mais il y a aussi le côté négatif du levain qui est comme la corruption, ça apporte la corruption, ça vient détruire des choses. C'est pour ça qu'il dit, ne savez-vous pas? Vous le savez. Vous savez qu'un peu de levain, un peu de facteur corrosif qui amène la corruption, pas corrosif, mais qui amène la corruption, fait lever toute la pâte. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Tout comme un petit péché, pas de petit péché, comme on va dire plutôt un exemple qui touche le corps humain, une petite maladie. Tu vas dire, oui, ça c'est rien. Même un rhume, il faut le soigner. Un mal de tête, il faut le soigner, vous ne savez pas ce que ça révèle, ça cache quelque chose. Une petite maladie peut ruiner la santé d'une personne, peut même amener à la mort. Donc, on ne doit pas négliger. Un peu de levain peut affecter toute l'assemblée aussi. Un pied infecté, un pied malade, des fois, on arrive à, comme ce monsieur dont tu nous as parlé, on décide de le couper parce qu'il n'y a plus moyen de le soigner. Le premier ministre, l'ancien premier ministre, c'était ça. La bête, comment on appelle, la bactérie mangeuse, pour sauver sa vie, on a dû amputer son membre. C'est pareil. Exclure quelqu'un, donc c'est ça l'effet du levain. Un peu de levain peut attaquer toute l'Église. Toute l'Église. Donc un péché qui n'est pas réprimandé de la même façon peut faire beaucoup de mal et peut affecter toute l'Assemblée. Alors ici, il évoque quelque chose. On va lire d'abord Exode chapitre 12, toujours dans son illustration. Il évoque donc la célébration de la Pâque juive. Comment ils célébraient la Pâque juive, Exode 12, le verset 15, dit « Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. » Voici comment ils devaient célébrer leur Pâque, leur libération. Comment ils devaient célébrer? Ils devaient célébrer avec du pain sans levain. D'où on leur disait, vous célébrez pendant 7 jours, mais dès le premier jour, vous sortez ce qui est levain de votre maison pour ne pas être tenté. L'agneau qui était immolé pendant ces journées-là de la fête de Pâques pour eux, devait être mangé avec du pain sans levain à cause de la corruption qu'il y avait dans le qui est apporté par le levain, donc dans le pain. Alors, la même chose, quand il dit ici dans ce texte, ôtez du milieu de vous, ôtez le levain, ôtez le mal, ôtez tout agent qui peut faire de la corruption, ôtez tout le mal du milieu de vous afin d'être une pâte sans levain, afin d'être une pâte sans levain comme Dieu le veut. Dieu veut que ce soit une pâte sans levain. Alors il disait, célébrez la fête pendant 7 jours, mais nous célébrons notre Pâque, c'est tous les jours que nous célébrons. Il n'y a pas un premier jour où on le fait pendant 7 jours et puis après on revient à ça. Non. Nous, quand nous célébrons notre Pâques, le levain doit être ôté tout le temps de notre vie. Donc tout ce qui peut être corruption dans la vie doit être continuellement absent dans la vie des enfants de Dieu. Pourquoi ? Parce que Christ, lui, s'est offert une fois pour toutes. Faites disparaître le vieux levain. Faites disparaître tout ce qui est de l'ancienne nature. Faites disparaître ces choses afin que vous soyez une pâte nouvelle. Une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque. Christ, nous, est notre Pâque. Christ est nous, l'agneau qui a été immolé. L'agneau sans tache. Que nous devons manger, donc, avec du pain sans levain. Donc, nous devons fêter Pâques avec, non avec du vieux levain, avec les anciennes caractéristiques, nos anciennes caractères, notre ancienne nature, mais non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Jésus-Christ n'est-il pas lui-même l'exemple de ce type de pain? Le pain sans levain, une vie pure. Je suis le pain de vie, je suis le pain descendu du ciel. C'est l'exemple que nous devons suivre, dit Paul. Faites donc disparaître tout ce qui est de votre ancienne nature, mais célébrez Pâques. Célébrez avec des pains sans levain, que votre vie soit sans malice, sans méchanceté, mais que votre vie soit remplie de pureté et de vérité. Amen. C'est ça donc que Paul évoque ici. Nous allons au chapitre, au verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde ou avec les cupides et les ravisseurs ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nommant frère et débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. C'est important de savoir, de faire attention avec qui on s'associe, qui on fréquente, avec qui on a des relations. C'est ce qu'il veut dire, simplement. Je vous l'ai écrit dans ma lettre. Bon, il y a des commentateurs ici qui disent, est-ce que ce serait une lettre, on ne sait pas laquelle exactement, est-ce que ce serait une lettre de Paul qu'il avait envoyée, qui n'est jamais arrivée à destination? D'autres disent, non, c'est une façon de parler, juste dit, je vous l'ai déjà dit dans tout ce que j'ai dit antérieurement. Je vous ai déjà dit, il l'a dit plus haut, qu'il ne faut pas avoir de relation avec les débauchés, parce que les débauchés, il faut les ôter du milieu de nous. Donc, c'est important donc, de savoir avec qui nous avons des relations. Et il dit, non pas d'une manière absolue. Ça veut dire, ce n'est pas de tous les débauchés qu'il s'agit ici. C'est les débauchés de ce monde, qui sont dans le monde. Les débauchés qui sont dans le monde, c'est des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est des gens qui ne connaissent pas la vérité. C'est des gens vers qui nous devons plutôt aller. Okay? Nous devons aller vers eux. Ils sont débauchés, ils ne connaissent pas la vérité. La mission que le Seigneur nous a confiée, c'est d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. Parce que si nous ne nous approchons pas de ces gens, les débauchés de ce monde, qui leur parlera de Christ? Qui leur parlera du salut? Qui leur parlera de l'avènement prochain du Seigneur Jésus-Christ? Donc ce n'est pas d'une façon absolue avec les débauchés de ce monde. Il est évident que ce n'est pas parce qu'on dit qu'on doit garder contact avec les débauchés de ce monde que maintenant on va dire, ben c'est fini, moi ma vie c'est avec les débauchés maintenant. C'est vraiment pas ça. Il dit, ce n'est pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde. Oui, on doit les rencontrer, oui, on doit les approcher. Approche-toi de ce char, approche-toi de ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Dis-leur la vérité, ouvre-leur les yeux aux réalités spirituelles qu'ils ne connaissent pas. Approche-toi. Mais que ce ne soit pas maintenant une justification pour dire, bon, mais désormais ma vie, c'est auprès des débauchés. Des gens qui ont déjà dit ça une fois, que ah, moi je sens toujours le Seigneur m'appelle à aller vers les, comment on les appelle, sur Sainte-Catherine à Montréal, les prostituées. Frère, est-ce que c'est le Seigneur qui t'a envoyé là-bas? Sois sûr de ce que tu dis, parce qu'on met beaucoup de choses sur le nom du Seigneur. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a convaincu, le Seigneur m'a parlé que je dois aller là-bas. Mais plusieurs de gens, enfin plusieurs, j'en connais en tout cas qui sont allés, mais qui ont mal fini. Ils ont mal fini leur parcours. Donc, il dit, ce n'est pas d'une manière absolue. Le psaume 1, verset 1 nous parle de ne pas nous tenir en compagnie des méchants, en compagnie des moqueurs. C'est principalement les débauchés qui sont dans la maison du Seigneur. C'est des chrétiens qui vivent dans la débauche. Voici des gens avec lesquels il ne faut pas se tenir. C'est des gens où tu les approches une fois, deux fois, comme on a dit au début. Mais s'ils ne veulent pas, ôtez-les. 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 Les débauchés à éviter, ce ne sont pas les incroyants. Parce que ces gens-là-bas, ils le sont de nature, de toute façon. Ils le sont de nature. Et le monde est rempli de ces gens. Ils sont de nature. Mais il s'agit plutôt d'éviter, pas d'éviter les gens du monde, justement, parce que autrement, comment est-ce qu'on va les évangéliser? Nous devons aller vers eux avec prudence, avec sagesse, en demandant la grâce de Dieu, mais être mu, être poussé par réellement des sentiments pour gagner des âmes, pas autre chose. Ce qu'il faut éviter, c'est ceux qui sont dans la maison du Seigneur et qui vivent la débauche. Ne pas se tenir avec eux. Il va même plus loin en disant, ne même pas manger avec eux. C'est vrai. Parce que toute relation avec une telle personne équivaudrait tout simplement à approuver sa mauvaise conduite. Aux yeux des gens qui vous voient, ils disent, mais comment ça? Le gars ne change pas, il est toujours dans la débauche, il est toujours dans cette vie de désordre, etc. Il ne change pas, et tu continues à entretenir des relations avec lui. Tu manges régulièrement avec lui. Qu'est-ce qui se passe? Il dit de ne pas manger avec de telles personnes. Paul est très, très sévère. Hein? Avec les débauchés de ce monde, pas juste les débauchés, avec les cupides, c'est aiguillant le goût de l'argent, les ravisseurs qui volent les autres, avec les idolâtres. Les gens qui prennent en vain le nom du Seigneur. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Donc, ceux du monde, il faut aller vers eux, les voir pour les sortir des ténèbres. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nommant frère. Et c'est là, dans l'église du Seigneur. Tout le monde est frère. Tout le monde est sœur. Bonjour frère. Bonjour sœur. Est-ce que c'est réellement des frères véritablement? Ou c'est des gens qui se nomment des frères ou des gens qui se nomment des sœurs? Se nommant frère. Mais qui est quand même débauché, qui est quand même cupide, qui est quand même idolâtre, qui est quand même outrageux, qui fait de l'outrage aux autres, qui est ivrogne, qui est ravisseur, et de ne même pas manger avec un tel homme. Et ça va loin, ça va loin. Pour montrer la sévérité que nous devons avoir parfois, même en tant qu'enfant de Dieu. Les gens peuvent parler, c'est pas grave, mais je sais pourquoi je le fais. Il ne faut pas continuer à faire mépriser l'Église. Il ne s'agit pas de faire mépriser l'Église à cause de notre attitude qui est conciliante, qui est, etc. Et on termine avec les versets 12 et 13. Il dit, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Ou ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez. Il termine par vraiment sa décision, ôtez le méchant du milieu de vous. Il dit, ce n'est pas notre rôle de juger ceux du dehors. Pas notre rôle. Dieu s'en occupera. Nous avons par exemple un rôle d'aller vers eux, de leur apporter l'évangile, et d'essayer de les sortir des voies des ténèbres dans lesquelles ils sont, parce qu'ils n'ont peut-être pas la connaissance, parce qu'on ne leur a jamais parlé de certaines choses. Mais notre rôle est d'aller vers ces gens pour leur apporter l'évangile. Ce n'est pas de les juger, parce que eux, ces gens-là, ils ne font pas la honte de l'Église. Les païens qui sont dehors font la honte de l'Église. En quoi? Rien. Oui, peut-être on peut dire, en cherchant bien, on peut dire la honte de l'Église, c'est d'en avoir fait son travail. L'Église s'assoit tranquillement dans la maison, dans les quatre murs, ne fait pas le travail d'aller les sortir, c'est la honte de l'Église, dans ce sens-là. Mais pas dans le sens de le juger. Ils ne font pas la honte de l'Église pour qu'on les juge, ces gens-là-bas. Et c'est même une erreur que nous commettons souvent dans les églises de condamner ces gens qui viennent habillés tout croche, n'importe comment. Il arrive encore dans la maison du Seigneur qu'on est déjà dessus. C'est une erreur. Cette personne se sent rejetée tout de suite. Il faut lui donner le temps. C'est peut-être 2 ans, 3 ans que tu es dans le Seigneur, tu comprends des choses. Mais l'autre, il apprend, c'est comme quelqu'un qui cherche, qui tâtonne. Je n'ai pas dit qu'on doit tout accepter, mais même quand on doit faire une remarque, il y a moyen de le faire avec amour. Nous commettons souvent l'erreur, parfois du haut de la chair, même en rencontrant la personne, on commence tout de suite à juger. Il se sent tout de suite jugé, il se sent tout de suite comme rejeté. Il dit, oh, on me juge ici, on me prend pour ci, pour ça. Donnons la chance au coureur, comme on dit. Donnons-lui la chance et pour qu'il ne se sente pas publiquement rejeté. C'est l'effet contraire que nous avons souvent et les gens rentrent d'où ils sont venus. Ils ne veulent plus mettre de pied. C'est ça l'Église. Oups, je m'en vais. Nous avons déjà connu des cas comme ça. Alors notre responsabilité par contre, selon Paul ici, elle est d'abord individuelle. Individuellement, nous devons aider les fautifs. Nous avons parlé de ce texte de Matthieu qui dit « si un frère pêche, va vers lui individuellement ». S'il ne t'écoute pas, tu vas prendre une deuxième personne, ainsi de suite. Donc, il y a une responsabilité individuelle envers des frères qui vivent dans une mauvaise situation. Il faut aider les fautifs à changer et, par la grâce de Dieu, les amener à la repentance. Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 5, nous dit ceci, versets 19 à 20. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, le ramène à la vérité, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude
de péché. Belle recommandation de Jacques. Donc, une responsabilité individuelle. Mais il y a la responsabilité collective en tant qu'assemblée, en tant que groupe. Nous avons aussi une responsabilité. Je n'aime pas, ce n'est pas de mes affaires. Non, ça, nous avons une responsabilité collective d'arriver à une décision, comme Paul dit, ôtez le méchant du milieu de vous. C'est la responsabilité de l'Assemblée. Ça va être une décision de l'Assemblée. Quand on a tout essayé, quand on a encadré la personne, qu'on l'a amené à réfléchir sur sa situation, on lui montre que c'est contraire à la volonté de Dieu, contraire à la parole de Dieu, ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu que la personne s'obstine à continuer là-dedans. La responsabilité est collective d'ôter les méchants qui ne changent pas en les ayant avertis, évidemment, auparavant. C'est sûr que le temps d'avertissement, le Saint-Esprit peut travailler dans le corps de la personne. Il n'y a personne qui doit se minimiser et dire « je ne le connais pas beaucoup, je n'aime pas beaucoup parler aux gens de leur vie privée. » Frère, Jacques vient de nous dire « tu sauveras une âme, tu sauveras une âme. » Qui n'aimerait pas? Qui aimerait voir des personnes aller à l'enfer? On ne veut pas, on veut tous que tout le monde, hein? En tout cas le plus possible de gens aillent aussi, on aimerait ça. Mais si on veut ça, il faut faire quelque chose. On fait quelque chose. Donc, que le Seigneur nous aide à comprendre le message de Paul de ce soir et nous aide à mettre cela en pratique, même si c'est difficile. Même si c'est difficile. Et pour les églises aujourd'hui, laissez-moi vous dire que c'est de plus en plus difficile. Ça crée des divisions, ça crée des départs dans l'église. Et quelquefois, il y a des églises où on a peur de toucher à un mal. On dit, si on touche là, on perd la moitié des membres. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez garder des gens pour les amener tout droit en enfer? Ou vous voulez plutôt les sortir des voies de l'enfer. Sortez-les du milieu de vous, et une fois qu'ils seront sortis, ils vont peut-être réfléchir et dire, mais oh, c'était si sérieux que ça. Ils vont peut-être revenir en eux-mêmes, et avec les prières qui les accompagnent. On ne les sort pas pour nous en débarrasser, on les sort pour qu'ils réfléchissent, on continue à prier pour ces personnes. Que le Seigneur nous aide à y arriver. Amen.